Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir l'Afrique, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Le Monde Aujourd'hui, édition du mardi 16 septembre 2014, en direct du studio 13 à Washington. Au micro, Morgane Guiriac et Chérubin Dorcine. Bonsoir Chérubin.
Bonsoir Morgane et bonsoir à tous.
Au sommaire, ce soir, vers le déploiement de 3000 soldats américains pour combattre l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest.
L'Ukraine accorde plus d'autonomie aux régions séparatistes de l'Est, alors que Kiev tente de se rapprocher davantage de l'Union européenne.
Guinée-Bissau, coup de poker du président José Mario Vaz. Il renvoie l'homme fort de l'armée, le général Antonio Injai, auteur du coup d'État d'avril 2012.
Au Nigeria, des parlementaires réclament une guerre totale contre Boko Haram.
Nous parlerons aussi de la mortalité infantile en Afrique subsaharienne.
Dans l'Afrique subsaharienne, ce taux de mortalité infanto-juvénile est encore très élevé, et particulièrement dans l'Afrique de l'Ouest et du Centre.
Nous aurons aussi les sports et la musique en fin d'émission, mais avant, le journal.
Explosion d'une mine dans le nord du Mali. Deux femmes ont été tuées la nuit passée, annonce l'AFP. Un véhicule transportant des civils a roulé sur la mine près de la localité d'Agelhok, a affirmé un élu de Kidal, près de la frontière algérienne. Quatre autres passagers auraient été blessés, selon la même source. Une source militaire de la mission de l'ONU dans le nord du Mali a confirmé l'information à l'AFP. Le nord est infesté de mines posées par les islamistes. Elles sont devenues l'arme de guerre favorite des terroristes, a ajouté la même source.
La Banque mondiale a approuvé mardi, aujourd'hui, le don de 105 millions de dollars afin d'endiguer plus rapidement l'épidémie d'Ebola en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Barack Obama, lui, monte au créneau pour endiguer l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Le président américain visite aujourd'hui les centres fédéraux pour la prévention et le contrôle des maladies à Atlanta. Il devrait y annoncer le déploiement de 3000 soldats américains dans la région touchée par le virus. Sarah Diaby nous en dit plus.
L'armée américaine doit construire 17 établissements de santé de 100 lits chacun pour isoler et traiter les victimes de la fièvre hémorragique. La mission des États-Unis sera également de mettre en place une installation capable de former 500 professionnels de la santé par semaine. Selon un communiqué de la Maison-Blanche, le centre de commandement sera dans la capitale libérienne, Monrovia. Pour la présidence américaine, le but du programme est de lutter contre l'épidémie d'Ebola à sa source et de mettre en place une infrastructure sécurisant la santé mondiale en Afrique de l'Ouest et au-delà. De son côté, l'Agence américaine pour le développement international distribuera des kits de protection et formera les gens à eux-mêmes protéger leurs familles. La campagne ciblera d'abord les 400 000 ménages les plus vulnérables au Libéria et puis s'étendra à l'ensemble du Libéria et de la région. Notons par ailleurs que les diplomates ont annoncé que le Conseil de sécurité des Nations Unies tiendrait une réunion d'urgence pour la crise de l'Ebola jeudi.
Et conséquence de l'épidémie d'Ebola, la Guinée reporte sa fête de l'indépendance au lieu du 2 octobre. Elle devrait avoir lieu en décembre. La date exacte sera annoncée ultérieurement. Ce report doit permettre de prendre en compte toutes les mesures de santé et de sécurité publique liées notamment aux déplacements et aux regroupements de personnes pendant les festivités, explique la présidence guinéenne.
En République démocratique du Congo, le bilan de l'épidémie d'Ebola a été revu à la hausse. Le virus, à ce jour, fait 39 morts, affirme le ministre national de la Santé. Mais selon le docteur Félix Kabongé Numbi, l'épidémie reste circonscrite dans le seul territoire de Boende, dans la province de l'Équateur. Il ajoute par ailleurs que de nombreux malades pris en charge à temps ont été guéris. Félix Kabongé Numbi est au micro de Top Congo FM, notre radio partenaire à Kinshasa.
À ce jour, de manière cumulée, nous avons 66 cas suspects, 26 cas probables et 24 cas confirmés Ebola par le laboratoire. Nous avons 39 décès. Parmi ces décès, nous comptons malheureusement 8 personnels de santé. Depuis le 11 août, nous avons suivi 626 contacts. Parmi ces contacts, 342 ont été suivis et ont terminé leurs 21 jours, donc ils ont été déchargés.
Au moment où la polémique enfle en Afrique de l'Ouest sur les moyens de guérir Ebola, comment est-ce que la RDC fait pour guérir ces malades?
Lorsque une personne est atteinte par un virus, il y a l'immunité naturelle qui est mise en branle. Et cette immunité peut arriver à contenir et à tuer le virus et à pouvoir l'éliminer. La deuxième chose, c'est que plus tôt on amène le malade au centre de traitement, plus de chances il a de guérir.
Au Nigeria, le Sénat va appeler le président Goodluck Jonathan à mener une guerre totale contre la secte islamiste Boko Haram. Appel lancé alors que Boko Haram a progressé de manière fulgurante ces dernières semaines, s'emparant de nombreuses localités des États de Yobe, Borno et Adamawa. En mai, M. Jonathan avait lui-même promis une guerre totale contre le terrorisme, mais l'armée s'est montrée incapable de stopper l'avancée des islamistes.
Par ailleurs, les autorités nigérianes ont annoncé la condamnation à mort de 12 soldats qui ont tenté de tuer leur commandant lors d'une mutinerie dans le nord-est du pays. Selon l'accusation, ils ont tiré sur la voiture officielle du major général Ahmed Mohamed à Maïdougouri, une ville où Boko Haram est encore actif. L'armée nigériane est engagée dans une lutte contre la secte islamiste, mais les soldats se plaignent souvent d'un manque d'équipement et de soutien dans leur mission.
Toujours au Nigeria, le président, plutôt en Afrique du Sud, le président Jacob Zuma a annoncé mardi que 67 ressortissants sud-africains sont morts dans l'effondrement le 12 septembre d'un immeuble à Lagos, capitale économique du Nigeria.
Les entreprises privées et ONG opérant au Soudan du Sud devront à partir du 15 octobre remplacer leur personnel étranger par des Sud-Soudanais. Telle a été la décision du gouvernement du président Salva Kiir, sans aucune explication. Une circulaire du ministère sud-soudanais du Travail, publiée aujourd'hui, cite les banques, sociétés des secteurs de l'assurance, des télécommunications et du pétrole, les hôtels et auberges parmi les entreprises concernées. Devenu indépendant il y a 3 ans, le Soudan du Sud est au bord de la famine après 9 mois de guerre civile.
En Égypte, un accident de la route a fait 9 morts et 30 blessés. La collision entre un bus de touristes et un autre véhicule est survenue près de Beni Souef, dans le centre du pays, ont indiqué les sources médicales et sécuritaires citées par l'AFP.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le chef d'état-major interarmes des États-Unis, le général Martin Dempsey, n'exclut pas le déploiement de troupes terrestres en Irak pour combattre les militants de l'État islamique. Jean-Roger Billon.
Intervenant lors d'audience publique au Congrès, le général Dempsey a déclaré que s'il venait à estimer que les conseillers militaires américains devraient accompagner les troupes irakiennes au front contre les insurgés, il le recommanderait au président Barack Obama. La semaine dernière, M. Obama avait annoncé que les États-Unis allaient élargir leur lutte contre l'État islamique, mais ne se laisseraient pas entraîner dans une autre guerre terrestre en Irak. Les dernières troupes terrestres américaines ont quitté l'Irak en 2011, sur ordre du président, après une guerre de près de 9 ans qui a permis de renverser Saddam Hussein. Mais ces dernières semaines, Barack Obama a dépêché plus de 1600 conseillers militaires américains pour épauler les forces irakiennes face à la progression des djihadistes de l'État islamique. Les audiences du Congrès portent sur une requête pour armer et entraîner les rebelles syriens combattants et le président Bachar al-Assad et l'État islamique.
Le principal imam dans la ville américaine de Minneapolis a condamné la décapitation d'otages par des militants de l'État islamique, affirmant que la pratique est non islamique. Lionel Gaïma.
Cheikh Abdirahman Cheikh Omar a dit au service somalien de la VOA que selon la loi islamique, les captifs ont des droits et ne doivent pas être tués à cause de leur nationalité. Il a comparé l'État islamique au groupe extrémiste somalien Al-Shabaab, affirmant que les militants portent préjudice à l'islam au lieu d'attirer les gens vers la foi. Ils ont tué tous les éducateurs, ils ont tué des professeurs, ils ont même tué les imams dans les mosquées. Ils ont tué beaucoup de gens innocents. Et en même temps, ils disent « nous sauvons les gens ». Ils tuent plus des musulmans que des gens de toute autre religion. Ils font tort à l'islam. Cheikh Omar croit également que les dirigeants américains doivent faire davantage pour montrer que l'Amérique n'est pas en guerre avec l'islam.
Le Parlement ukrainien a adopté une loi accordant plus d'autonomie aux régions séparatistes dans l'est du pays, ainsi que l'amnistie pour la plupart des rebelles. Nathalie Barge.
Le nouveau projet de loi proposé par le président Petro Porochenko vise à mettre fin au conflit de 5 mois dans l'est de l'Ukraine. Les dirigeants séparatistes pro-russes ont minimisé l'importance de la décision. Alexander Zakharchenko, premier ministre de la République populaire de Donetsk, autoproclamé, a déclaré à l'agence de presse officielle russe RIA Novosti que la loi doit encore être signée par le président Porochenko et publiée avant d'être effective. Ensuite, nous allons la traduire en russe, l'étudier et donner notre avis, a-t-il dit. Le premier adjoint de Zakharchenko, Andrei Purgin, est allé plus loin en disant que cette loi pourrait servir seulement comme base pour un futur dialogue, non pas comme un acte législatif, et d'ajouter que les lois qui régissent la République populaire de Donetsk sont créées par son propre parlement, pas celui de Kiev. Ce mardi, les législateurs ukrainiens ont également ratifié un accord pour élargir les liens économiques et politiques avec l'Union européenne.
La faim recule dans le monde, c'est le constat établi dans le dernier rapport publié conjointement par l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, le Fonds international de développement agricole, FIDA, et le Programme alimentaire mondial, PAM. La tendance est certes positive, mais beaucoup reste à faire. On écoute James Taft, fonctionnaire principal chargé des politiques au bureau régional de la FAO à Accra, au Ghana.
Cette édition fait ressortir qu'en 2014, on avait estimé qu'il y a 805 millions de personnes dans le monde, soit un être humain sur 9, qui souffrent encore de la faim. Donc depuis 2013, donc il y a une baisse d'à peu près 5%. Donc il y a une tendance positive générale. Ceci dit, quand même, 800 millions de personnes représentent une prévalence de sous-alimentation assez importante dans la région. Je pense que si on regarde la tendance relative à la 10 dernières années, on a noté une baisse de 100 millions de personnes. Et donc, depuis le début du processus en 90-92, soit il y a 20 ans, il y a une baisse de 200 millions de personnes souffrant de la faim.
James Steft au micro de nos confrères du service de presse de la FAO.
Attentat suicide à Kaboul, en Afghanistan. Une voiture piégée a heurté des véhicules de l'OTAN, tuant au moins 3 soldats de la force internationale. L'OTAN n'a pas révélé leur nationalité. 5 soldats et 3 civils seraient également blessés dans cette explosion qui s'est produite sur une route reliant l'ambassade américaine à l'aéroport de Kaboul. Les talibans ont immédiatement revendiqué la responsabilité de l'attaque. Voilà pour le journal. Au micro, Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. On passe maintenant à la partie magazine de notre émission. Le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans a baissé de 49% entre 1990 et 2013. C'est ce que constate l'UNICEF dans un rapport publié aujourd'hui, Gabi.
Le document note aussi une accélération de la réduction moyenne annuelle de cette mortalité. Malgré ces points positifs, le rapport « Niveau et tendance de la mortalité infantile », c'en est le titre, relève que 6 300 000 enfants de moins de 5 ans sont décédés en 2013, principalement de causes évitables. Pour faire le point, Timothée Donangmaï a joint à Dakar le docteur Guido Borges, conseiller principal de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale.
Depuis 1990 à 2013, c'est la date à laquelle les données de mortalité infanto-juvénile sont mises à jour. Et disons globalement, et c'est-à-dire partout sur la planète, le taux de mortalité infanto-juvénile est descendu de 90 décès sur 1000 naissances vivantes à 46 décès sur 1000 naissances vivantes. Donc c'est un très bon progrès, si vous voulez, en termes de nombre de décès, ça s'est traduit à une diminution de la moitié des décès infanto-juvéniles dans le monde. En 1990, on avait quelques 12 700 000 décès des enfants de 0 à 5 ans. Et en 2013, on a 6 300 000. Donc vous voyez que c'est un grand progrès.
Qu'est-ce qui est à l'origine de cette amélioration?
Il y a des grands progrès, mais encore chaque jour, il y a quelques 17 000 enfants qui meurent dans le monde, dans le monde de 5 ans, par des causes qui sont évitables. Et si vous réfléchissez bien, ça veut dire 40 avions Boeing 747 qui s'est classé chaque jour plein d'enfants. Donc c'est quelque chose encore d'effrayant, surtout si on pense que ces décès peuvent être évités. Et la chose préoccupante, c'est aussi que dans l'Afrique subsaharienne, ce taux de mortalité infanto-juvénile est encore très élevé, et particulièrement dans l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc, alors, les progrès qui ont été faits ont été registrés particulièrement dans la dernière décennie. Il y a eu globalement un renforcement des systèmes de santé, une meilleure éducation de la population, particulièrement des femmes. Il y a eu des campagnes de distribution de vitamine A, des campagnes de vaccination contre la rougeole et d'autres interventions qu'on appelle à haut impact pour la survie des enfants qui ont permis cette réduction. Mais comme je disais encore, il y a dans certaines régions, et particulièrement en Afrique, la situation pourrait s'améliorer, mais disons, on a encore beaucoup de problèmes.
Le docteur Guido Borghese, conseiller principal de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, joint à Dakar au Sénégal.
Washington Forum consacré ce jeudi à la situation en Centrafrique. Arrivée des casques bleus, nouveau Premier ministre, report probable des élections. La transition peut-elle encore être sauvée dans le pays? Laissez-nous vos commentaires sur notre page Facebook. Ils seront lus en direct ce jeudi 19h, temps universel pendant l'émission. La Centrafrique en débat, c'est ce jeudi sur La Voix de l'Amérique.
L'armée bissao-guinéenne fait le ménage dans ses rangs. Le président José Mario Vaz a limogé le chef des armées, le général Antonio Ndiaye, meneur du coup d'État d'avril 2012, recherché par les États-Unis pour trafic de drogue. Le général Ndiaye était depuis quelques années l'homme fort de l'armée dans ce pays, où les militaires jouent un rôle important dans l'appareil d'État. Nicolas Pino a joint le professeur Fafali Koudawo de l'université Colinash de Boé.
C'est un remplacement, c'est une décision pour créer les conditions d'un remplacement du chef d'état-major. Il était déjà clair qu'il ne pouvait pas continuer à sa place parce qu'il était représentatif d'un ordre qui doit finir, d'un cas de figure où les militaires ont fait un coup d'État tout en restant dans les casernes, diriger finalement le pays à travers des hommes politiques qui se sont prêtés au jeu. Et on conquis un espace politique qui leur était impossible d'abandonner dans le cadre de la normalisation des institutions qui s'opère depuis la réalisation des élections générales cette année.
Pensez-vous que c'est le début du grand ménage au sein de l'armée bissao-guinéenne?
C'est le début d'un processus qui doit amener à la mise en place d'une armée totalement républicaine. Nous savons que l'armée bissau-guinéenne est héritière d'une tradition de guérilla et qui après s'est muée en une tradition de coup d'État et d'insoumission de la partie militaire de l'État à la partie civile et politique de l'État. Le processus en cours actuellement est de normaliser le fonctionnement des institutions et de replacer sous l'autorité politique et civile, les militaires, qui passent nécessairement par la mise en place de réformes profondes au sein des forces armées. Et en ce sens, ce n'est pas une question seulement d'hommes, c'est une question d'institution. Il faut réformer l'institution, la redimensionner par rapport aux besoins réels du pays.
La Guinée-Bissau a-t-elle, selon vous, définitivement tourné le dos à ces 2-3 dernières années d'instabilité chronique?
La mutation qui doit se faire au sein de l'armée fait partie de la réaffirmation de l'autorité politique. Et si cette mutation s'opère, on va définitivement tourner la page. Et il ne faut pas se leurrer. Il pourrait y avoir des résistances. Et ces résistances peuvent ne pas être seulement du côté des militaires, parce qu'il y a beaucoup de civils et beaucoup d'hommes politiques qui, pendant longtemps, manipulaient dans l'ombre les militaires pour en tirer des dividendes politiques.
Voilà, c'était le professeur Fafali Koudawo, joint à Bissau.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Campagne d'assainissement à Bamako au Mali, lancée par Toguna Industries. Pour cette campagne, des dizaines de camions, des engins lourds de ramassage et une équipe de spécialistes sont mobilisés. Deux endroits sont visés pour le moment, les dépôts d'ordures de Medina Koura en commune 2 et celui de la commune 5. L'opération va durer jusqu'au 21 septembre, nous dit Kassim Traoré.
Toguna Industries va en guerre contre les ordures de Bamako. Le premier coup de pelle de cette opération d'une semaine a été donné par le ministre de l'assainissement, de l'eau et de l'environnement, Abdoulaye Idrissa Maïga.
Ils l'ont fait il y a un an, ils l'ont fait cette année. Vous savez que c'est des opérateurs en général qui rentrent en compétition pour avoir ce genre de marché. Et ça doit être un exemple à suivre. Je le dis surtout à l'intention des autres opérateurs. Il ne faut pas être à l'affût seulement des marchés publics. Quand il y a un problème national, parce que c'est une question nationale, la question d'assainissement, c'est une préoccupation à la fois pour les autorités, pour les élus, c'est qu'il nous faut rapidement sortir des urgences. Parce que ça encore, c'est une action d'urgence qu'il faut changer. D'ici deux mois, nous allons pouvoir effectivement nous entendre sur les meilleurs mécanismes, avoir des professionnels, ce qu'on appelle ailleurs les délégataires, qui agissent en lieu et place de la mairie.
Toguna Industries doit débarrasser la population de Medina Koura des 11 000 mètres cubes d'états d'ordures qui sont entreposés dans leurs dépôts. Parce que les autorités de Bamako n'ont pas de capacité pour enlever ces ordures. C'est pourquoi Toguna Industries a organisé cette campagne citoyenne qui s'inscrit dans le cadre des festivités du 22 septembre 2014. Oumar Guindo, directeur général de Toguna Industries.
Dans le cadre de la fête de l'indépendance du 22 septembre, nous avons estimé qu'il était bon que les que chaque fois qu'il y a une fête, et c'est la tradition du pays, que les personnes nettoient d'abord chez elles pour recevoir les visiteurs. Et l'année dernière, nous avons fait une opération similaire lors de la venue des différents chefs d'État du monde entier pour l'investiture de son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta. Et cette année, nous réitérons la même opération.
Pour cette opération, l'entreprise citoyenne n'est pas allée avec le dos de la cuillère afin de répondre à la demande des autorités du district de Bamako. Adi Traoré, gouverneur du district de Bamako.
2000 francs pour 300 000 ménages, ça te fait 600 millions par mois. Moi, j'ai dit, lorsque vous mettez un opérateur qui a conscience de ce potentiel, qui organise, qui va à la pêche de ces 2000 francs pour avoir les 600 millions, qui structure, qui organise les acteurs autour de ce budget et autour de l'activité, il n'y a pas de raison qu'on ait une ville poubelle, qu'on soit dans une ville poubelle comme Bamako.
Pour la réussite de cette opération, Toguna Industries a mobilisé 35 camions Ben, 6 engins lourds de ramassage d'ordures, une équipe spécialisée en évacuation. Le but est de rendre la capitale malienne propre avant les festivités du 22 septembre 2014. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine, à Bangui, sur 101.7 FM.
Les jeunes Ivoiriens veulent la paix et du travail. Certains s'expriment par le rap. Le groupe ivoirien RAS, rien à signaler, a influencé le groupe sénégalais PBS, Positive Black Soul, qui donnera une icône nommée Didier Awadi. Il en est d'ailleurs le cofondateur. Depuis, le rap ivoirien a fait quelques détours avec les coupés décalés ou zouglou qui font actuellement fureur dans les maquis d'Abidjan. Aujourd'hui, le rap ivoirien fait son grand retour sur scène. Un reportage de notre envoyé spécial Idriss Fall à Abidjan.
Nous sommes dans les studios des jeunes rappeurs ivoiriens qui s'appellent Kiff No Beat.
Moi, c'est Bassa Zeroui Dilem, mais mon nom de rappeur, c'est Didi B. Kiff No Beat, ça veut dire aime nos sons, aime tout ce qu'on fait, tout souhait qu'un rappeur aimerait. Un de nos tubes, celui qui nous envoie un peu plus loin, qui nous ouvre beaucoup de portes actuellement, ça s'appelle Tu es dans Pince, Tu es dans des problèmes. C'est en nous chez Ivoirien. Voilà.
C'est dans Pain, c'est Blaka, Blaka Kiff No Beat, à l'état civil c'est Niaoré Oku Camille, fils de Boni Niaoré.
Qu'est-ce que ça signifie?
Ça veut dire que tu es dans les problèmes, ça s'adresse plus aux rappeurs ivoiriens, juste pour dire qu'il faut travailler, il faut pas s'asseoir, faut que l'argent te trouve à la maison, faut aller chercher l'argent quoi.
Parce qu'il y a le mouvement hip-hop qui est un peu en retard au pays, et c'est le combat de tous les rappeurs. On veut dire aux gens qui ne veulent pas s'ouvrir à la musique mais qui veulent rester forcément dans le rap, qui sont dans pain. Parce qu'il faut essayer de faire un peu du commercial, comme on dit, pour pouvoir envoyer notre musique loin. Ce son-là, c'est un son trap. Quand on dit trap dans le rap, c'est comme du coupé décalé actuellement. Et les anciens rappeurs, ils n'aiment pas ce genre de son. Ils se disent qu'il faut les beats old school. Pourtant, il y a un nouveau temps. Il y a différentes valeurs. comme mon père le dit, actuellement à l'école, on aime celui qui s'habille bien. Avant, on aimait celui qui travaillait bien à l'école. Il faut s'adapter à la tendance. On dit dedans, tu rappes fort fort. Quand on dit ici, on dit rap fort fort, on dit tu es trop yo-yo et tu n'as rien.
Maintenant, les paroles pour vous, c'est quoi?
Blaka, Blaka kiffe nos beats. On parle d'amour, on parle de paix. Nous sommes des vendeurs de rêves en fait. Des enfants classe, swag.
Mais quand on veut faire du rap conscient, on dit vraiment ce qui se passe. On dit vraiment ce qu'on vit. On a fait un son qui s'appelle Meilleur Ami. Ça parle de nos meilleurs amis qu'on veut toujours garder, même s'il nous arrive d'avoir le succès plus tard.
Mais pourquoi vous avez toutes ces tatouages-là sur vos mains?
C'est la culture hip-hop. Il y a les graffitis, il y a les tatouages. C'est le rap, c'est l'hip-hop, c'est comme ça.
C'est son image. Lui, il veut être différent. Il y a d'autres qui n'ont pas de tatouages, mais c'est pas n'importe quel tatouage. C'est un tatouage qui dit forcément ton vécu.
Est-ce que le rap a de l'avenir en Côte d'Ivoire?
La preuve, chez Dampin, ça passe sur trace. Ouais, le rap a de l'avenir.
On faisait du coupé décalé, on faisait les gros clips dessus. Mais maintenant, avec ce son, on en a eu confiance. Vous verrez par la suite que nos prochains singles seront dans ce style.
Voilà, depuis les studios de Kiff No Beat, Idriss Fall, la voix de l'Amérique.
Passe au sport et on a à nos côtés en studio Nicolas Pineau. Salut Nicolas.
Bonsoir Morgane.
En football, la CAF maintient sa décision de ne pas jouer dans les pays où sévit l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest.
Et oui, contrairement à des rumeurs diffusées par certains médias depuis quelques jours, la Confédération africaine de football réaffirme que ni la Guinée, ni le Libéria, ni la Sierra Leone ne peuvent recevoir les matchs à domicile. Une interdiction stricte qui sera réévaluée le 20 septembre à l'occasion d'une réunion au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, entre l'OMS et la commission médicale de la CAF.
Et sur les terrains d'Europe, les premiers matchs de la Ligue des Champions ont débuté depuis 45 minutes.
Et à la mi-temps, match nul 0-0 entre la Juventus de Turin et Malmö, l'Olympiakos qui mène 2-1 devant l'Atlético, véritable récital à Madrid au stade Santiago Bernabéu, le Real de Madrid qui cartonne 4-1 avec un but du trio magique Christian Bell, Cristiano Ronaldo et James Rodriguez. Dans le même groupe, Liverpool et Ludogorets se font match nul 0-0. Même score nul et vierge entre Monaco et Leverkusen. Le Zénith Saint-Pétersbourg qui mène 2-0 à Benfica réduit à 10. Et puis Dortmund qui mène devant Arsenal 1-0. Enfin match nul 0-0 entre Anderlecht à Galatasaray.
Gervinho prolonge avec l'AS Rome.
Oui, le club italien a officialisé la prolongation de contrat de l'attaquant international ivoirien qui est désormais lié avec l'AS Rome jusqu'en 2018.
Suite des soupçons de corruption sur l'organisation des Coupes du Monde 2018-2022.
Oui, Hans-Joachim Eckert, le président de la chambre juridictionnelle de la commission d'éthique de la FIFA, a avoué ce mardi douter que le football et l'éthique puissent encore fonctionner ensemble. C'est l'Allemand qui tranchera sur le dossier de l'attribution des mondiaux 2018 et 2022 à la Russie et au Qatar. Après avoir lu méticuleusement le rapport d'enquête de Michael Garcia, « Beaucoup ne vont pas aimer ce que je vais leur dire », a-t-il prévenu. La décision devrait être prise dans quelques mois.
Merci Nicolas. Roger Muntou est arrivé à nos côtés pour la page musicale. Salut Roger.
Salut Morgane. Dans notre programme musical RM Show, aujourd'hui, c'est vendredi, c'est Island Music. Nous parlerons du Cubain José Fajardo qui, pendant plusieurs années, jouait des claves et des maracas dans l'orchestre de son père Alberto Fajardo. Il apprend la flûte avec Fernando Sanchez dans sa ville natale avant de poursuivre ses études musicales un peu poussées à la Havane. On l'écoute ce soir dans Por la Maqueta.
Voilà, ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui. Josèle Morissin a dirigé la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. C'était Morgane Guiriec.
Et Chérubin Lorsil.
À demain.
las doy a cualquiera, porque no se las merecen. Solo sé que me entrego con la flauta en la mano para decirte, mi hermano.